suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une nouvelle ère dans les rapports entre les deux Corées. Les présidents du Nord et du Sud s'engagent ce matin sur la voie de la réconciliation. Ils promettent la dénucléarisation complète de la péninsule, l'établissement d'une paix permanente et solide entre les deux pays. Correspondance dans un instant de Frédéric Ojardias, analyse de Marie-Pierre Véraud, commentaire de notre confrère Dorian Malovic qui est notre invité aujourd'hui. Trois jours après Emmanuel Macron, c'est la chancelière allemande qui rencontre aujourd'hui le président américain autour des mêmes principaux sujets. La question des tarifs douaniers et le dossier nucléaire iranien. On sera en ligne avec Cyril Sauvageau. En France, les principaux points du projet de loi Avenir professionnel, présenté en Conseil des ministres ce matin, qui concerne donc la réforme de la formation professionnelle, mais aussi de l'apprentissage et de l'assurance chômage, présenté comme le volet émancipation sociale de la flexibilisation et de la flexisécurité à la française. Explication et commentaire avec Anne-Laure Chouin. Et puis, il y a un nouveau secrétaire général pour Force ouvrière, élu ce matin, Pascal Pavageau, élu donc pour remplacer Jean-Claude Mailly en poste depuis maintenant 14 ans. Analyse avec Mathilde Vénézé dans la dernière partie de la Grande Table. Olivier Gesbert.
Le plan banlieue présenté hier par Jean-Louis Borloo, on va en parler avec notre invité, un spécialiste des politiques urbaines, le sociologue Thomas Kirschbaum, qui sera avec nous après votre journal, Antoine.
Et on commence donc par cette déclaration qualifiée d'historique entre les dirigeants des deux Corées qui s'engagent donc à écrire une nouvelle page de leur histoire avec les deux pays qui conviennent d'abord de cesser toutes leurs activités hostiles sur terre, sur mer et sur air, qui confirment avoir pour objectif commun une dénucléarisation complète de la péninsule et qui affirme aussi déclarer vouloir cette année mettre fin à cette guerre de Corée en transformant l'accord de cessez-le-feu de 1953 en accord de paix. Frédéric Ojardias, une déclaration commune particulièrement attendue qui va assez loin, on le voit, on peut dire qu'elle bouleverse tout de même les termes des relations entre les deux parties de la péninsule.
Les deux dirigeants coréens ont signé une déclaration conjointe qui comprend plusieurs points. Sur le nucléaire, tout d'abord, Kim Jong-un et Moon Jae-in affirment vouloir une dénucléarisation progressive et complète de la péninsule, mais ils n'avancent aucune mesure concrète ni aucun calendrier. Nord et Sud ont aussi déclaré vouloir signer un traité de paix d'ici la fin de l'année. Ils ont promis des réductions d'armement pour apaiser les tensions militaires. Enfin, les deux Corées sont tombées d'accord pour reprendre les réunions de familles séparées par la frontière, installer un bureau permanent de liaison et organiser un deuxième sommet en automne, cette fois à Pyongyang. Il n'y aura plus de guerre sur la péninsule, a promis le président sud-coréen Moon Jae-in. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lui a répondu « Nous ne répéterons pas nos erreurs passées ». Ce sont des avancées significatives, mais en réalité, beaucoup de ces points ne sont pas nouveaux. Ils étaient déjà contenus dans les déclarations des précédents sommets et le Nord n'a offert en réalité aucune concession concrète et majeure sur le nucléaire capable de convaincre les États-Unis qui exigent une dénucléarisation complète, immédiate, vérifiable et irréversible. Ceci dit, cet accord reste encourageant, même s'il reste à voir comment tous ces éléments seront concrètement mis en application. Il devrait permettre une réduction des tensions entre les deux Corées, du moins dans les prochains mois.
Voilà pour cette première analyse, Frédéric Ojardias. Merci. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Antoine.
Comment est-ce qu'on peut prendre la mesure de cette déclaration? On voit que effectivement Frédéric Ojardias mettait quelques bémols à l'enthousiasme qu'on pouvait avoir spontanément devant les termes utilisés dans la déclaration. Comment donc prendre la mesure de cette déclaration et aussi de ses effets concrets?
Mais ce qu'il va falloir faire, c'est de regarder de très près la formulation de la déclaration commune et puis analyser aussi la manière dont elle sera interprétée de chaque côté. Parce qu'au-delà de cette déclaration historique sur la fin de la guerre, et c'est important, au-delà des images incroyables qu'on a pu voir, très chorégraphiées, qui mettaient en scène la proximité entre les deux présidents, avec force embrassade et poignée de main, il y a donc cette question qui obsède la communauté internationale et Donald Trump, la dénucléarisation de la péninsule. Alors, il est sans doute très significatif que le président sud-coréen Moon Jae-in ait à plusieurs reprises prononcé ce terme, qu'il ait annoncé lors de la déclaration conjointe, aux côtés de Kim Jong-un, le début de cette dénucléarisation complète de la péninsule, quand le nord-coréen, lui, ne l'a jamais cité. Il a insisté sur la nouvelle ère de paix, de prospérité qui s'ouvrait, prospérité, une seule Corée. C'est vraiment ce qui compte pour le président nord-coréen. Il n'a pas prononcé une seule fois le mot nucléaire. Alors certes, la déclaration conjointe, elle, précise que les deux Corées ont cet objectif commun d'obtenir au moyen d'une dénucléarisation totale une péninsule coréenne non nucléaire, mais donc aucun détail sur les moyens d'y parvenir, pas de calendrier non plus, pas même une phrase, par exemple, sur un accès international pour vérifier cette dénucléarisation. Le sujet est évacué d'une simple formule que Frédéric Ojardias le rappelait, on a déjà entendu. Et si l'on a mauvais esprit, on pourrait même y lire la volonté du Nord de ne pas abandonner si facilement son arsenal nucléaire. Cette péninsule coréenne non nucléaire, on l'obtiendra, est-il écrit, au moyen d'une dénucléarisation totale. Jusqu'à présent, pour le Nord, cette formule faisait référence à l'abandon par les États-Unis aussi de leur arsenal nucléaire. On le voit, tout est à écrire. Alors, ce que l'on peut tirer encore de cette rencontre, hein, c'est que ce sommet prépare désormais clairement la voie à celui entre les États-Unis et la Corée du Nord. Tout s'est passé de manière très fluide. Aucun obstacle donc à une rencontre avec Donald Trump. Et ce que le président sud-coréen a lui obtenu dans l'immédiat, et c'est fondamental pour sa population, pour la Corée du Sud et pour son capital politique, ce qui l'a rendu quasiment impossible désormais le spectre d'une intervention militaire américaine dans la péninsule.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. On est en ligne maintenant en direct depuis la rédaction du journal La Croix avec Dorian Malovic. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de l'Asie et de la Corée donc en particulier. Alors, votre première interprétation à vous, au niveau des bonnes intentions, on a quand même l'impression qu'il était difficile d'aller plus loin avec cette déclaration.
Si, on aurait pu aller beaucoup plus loin, comme viennent de le dire vos interlocuteurs. Nous avons déjà eu ce genre de déclaration en 2000 et en 2007. C'est vrai que rien n'est précisé sur la vérification, le contrôle, la dénucléarisation. Maintenant, on est en 2018, le contexte est totalement différent. En 2000 et en 2007, la Corée du Nord, évidemment, n'était pas un état nucléaire, alors qu'elle est de facto aujourd'hui un état nucléaire. Et aujourd'hui, nous avons, dans un mois ou un mois et demi, un autre sommet avec le président américain. Donc, si vous voulez, ce sommet a posé les fondements, je dirais, basiques pour que le prochain sommet se tienne. C'est vrai que les engagements ressemblent un peu à ceux du passé. Pour autant, les acteurs ne sont pas les mêmes. Moon Jae-in a déjà vécu les revers de 2007. Il était conseiller de Nomuyon à l'époque. Aujourd'hui, on a un autre leader nord-coréen, le fils Kim Jong-un, 34 ans, qui probablement a d'autres ambitions pour son pays que de rester en guerre jusqu'à la fin des temps. Donc, même si effectivement le sujet nucléaire est majeur et qu'il n'est pas réglé, ça va prendre du temps. On est au début d'un nouveau processus. Je vous rappelle qu'il y a 4 mois, on était au bord de la guerre. Donc, chacun pousse de son côté. Le Sud-Coréen est ravi de pouvoir être celui qui amène les gens à discuter. C'est la diplomatie de la rencontre. On a bien vu toute la matinée, Moon Jae-in toucher, serrer la main. C'était la bromance, hein, entre les deux leaders. Et on n'avait jamais vu ça, quand même. Ben oui, on répète ça, mais à la coréenne, tout le monde observe et on se dit, bon, se rencontrer, le téléphone maintenant existe entre les deux leaders en direct, on aura des discussions militaires, économiques et politiques.
Alors, excusez-moi, je repose la question, est-ce que c'est, selon vous, plutôt un remake des précédents, une étape, ou est-ce que quand même on marque une rupture assez nette? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question, ou est-ce que c'est entre les deux?
Écoutez, pour moi, je ne regarderai pas systématiquement le passé qui aujourd'hui ne ressemble pas à ce qui était il y a une dizaine d'années. On est vraiment dans un autre processus. On a des acteurs qui ont changé. On a un contexte géostratégique qui a changé. Vous avez une Chine hyper puissante, vous avez une Chine qui est menaçante et on voit bien que les États-Unis veulent empêcher la Chine de devenir une puissance pacifique. Et donc finalement les intérêts des uns et des autres ont évolué au fil du temps. Une pacification de la péninsule finalement deviendrait peut-être plus acceptable pour un certain nombre d'acteurs, pas pour tous, mais ça va prendre du temps. Ça, je suis d'accord avec vous.
On va reparler des conséquences régionales si vous voulez bien, Dorian Malovic, après avoir analysé les termes de cet accord dans la séquence interview. On vous retrouve donc dans quelques minutes. 3 jours après Emmanuel Macron, c'est la chancelière allemande qui rencontre aujourd'hui le président américain avec les mêmes sujets de préoccupation, les questions des tarifs douaniers, le dossier nucléaire iranien. Malgré ses efforts, on le sait, pour dissuader Donald Trump de sortir de cet accord, Emmanuel Macron avait admis au moment de quitter Washington ne pas être incité à penser qu'il avait fait changer d'avis son homologue américain. Est-ce que Mme Merkel aura davantage de succès? Correspondance de Cyril Sauvageau à Berlin.
À Berlin, on n'attend pas de miracle de cette courte visite à Washington. Si l'opération séduction d'Emmanuel Macron n'a pas fonctionné, il apparaît peu probable qu'Angela Merkel parvienne davantage à convaincre Donald Trump, compte tenu des relations glaciales entre le président américain et la chancelière. Mais qui ne tente rien n'a rien. À la Maison-Blanche, Angela Merkel appellera donc elle aussi le président américain à préserver l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais a priori, elle ne devrait pas reprendre à son compte l'idée évoquée par Emmanuel Macron tenteront de discuter un nouvel accord. Autre dossier sur la table, l'OTAN et la question des dépenses militaires des alliés. Donald Trump reproche régulièrement à l'Allemagne de ne pas en faire assez et il faut s'attendre à ce qu'il revienne à la charge. Mais pour la chancelière, le sujet le plus sensible, c'est la question des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. À quelques jours de la date butoir du 1er mai, elle fera une tentative de dernière minute pour convaincre Donald Trump de ne pas taxer les Européens. L'Allemagne, première puissance exportatrice en Europe, aurait beaucoup à perdre d'une guerre commerciale avec les États-Unis. C'est tout le « made in Germany » qui serait en danger, sachant qu'outre Rhin, un emploi sur quatre dépend de l'export.
L'actualité française avec les principaux points du projet de loi Avenir professionnel qui était présenté ce matin au Conseil des ministres, qui concerne donc la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage, présenté comme le volet émancipation sociale de ce qu'on appelle la flexi-sécurité à la française. On va essayer d'analyser tout cela. En tout cas, c'est un texte dont le détail a déjà été dévoilé début avril, qui est censé apporter davantage de protection aux travailleurs en complément donc des ordonnances qui réformaient le code du travail et qui ont donné plus de souplesse aux entreprises, une sorte de donnant-donnant pour la ministre Muriel Pénicaud, en tout cas, qui était l'invitée ce matin de France Inter. C'est bien la saison 2 de cette rénovation du modèle social. On l'écoute.
Aujourd'hui, ce volet est fondamental pour l'émancipation sociale. Ça veut dire quoi, la liberté de choisir son avenir professionnel? Pour un jeune, c'est pouvoir choisir un métier par passion et pouvoir se réaliser dans l'apprentissage, dans une voie professionnelle qui fait sens pour lui et qui lui donne envie de se lever le matin et de vivre quelque chose de passionnant. Pour un demandeur d'emploi, c'est d'avoir une protection contre le chômage. Et aujourd'hui, où la croissance repart, où il y a des entrepreneurs qui cherchent des compétences partout, la protection active, la meilleure des protections, c'est vraiment la compétence. Pour un salarié, c'est de pouvoir aussi avoir un espoir d'ascenseur social, de promotion sociale, ou de se prémunir aussi avec les évolutions technologiques, les métiers qui vont changer. Il y a des peurs aussi de dire, et ne pas subir, mais pouvoir choisir son avenir. Pour quelqu'un qui habite dans un quartier prioritaire de la ville, ne pas être un objet de discrimination, avoir accès à l'emploi. Dans une zone rurale, c'est pouvoir se former par Internet, avoir un conseiller par Internet, voire travailler en télétravail, en espace partagé. Pour les femmes et les hommes, c'est d'avoir le même salaire. Comment on peut être autonome, se projeter dans sa carrière si on n'a pas le même salaire. Pour chacun, l'important, c'est de pouvoir concrétiser avec un droit très précis en apprentissage, en formation, en assurance chômage, des droits nouveaux qui permettent une meilleure émancipation sociale, un meilleur ascenseur social.
Muriel Pénicaud, c'était avec Nicolas Demorand. Bonjour Anne Lorchouin.
Bonjour Antoine.
On va revenir donc sur l'esprit général donc de toutes ces mesures, mais on va d'abord rappeler les principaux points du projet de loi.
Alors, ils sont nombreux et peuvent apparaître assez techniques, mais l'esprit est le même, donner à chacun plus de facilité pour se former, soit qu'on soit déjà en poste et qu'on souhaite évoluer, soit qu'on soit chômeur et qu'on souhaite maximiser ses chances de trouver un emploi. Avec cette idée que le monde du travail change à toute allure, que les emplois se transforment, certains disparaissent, d'autres apparaissent. Face à cela, il est nécessaire de se former en continu, ne serait-ce que pour ne pas perdre son emploi actuel. Tout ce qu'on estimait donc être un frein à l'accès à cette formation, complexité du système, complexité du financement, complexité du choix, est donc simplifié en partant du CPF, le compte personnel de formation, utilisé un peu comme une application sur laquelle son crédit en euros sera transformé en formation. On pourra également plus facilement savoir si la formation choisie est certifiée, avec au besoin un accompagnement personnalisé, le tout géré par une agence nationale, France Compétences, pardon. Et puis les OPCA, ces agents de collecte des financements de la formation, souvent critiqués pour leur opacité, disparaissent et deviennent des opérateurs de compétences. L'accent est également mis sur ceux qui ne sont pas dans l'emploi et qui ont paradoxalement beaucoup plus de mal à accéder à la formation professionnelle, les chômeurs, notamment les jeunes. Un plan investissement compétences devrait aider à former 2 millions de personnes. L'assurance chômage, enfin, sera ouverte aux indépendants et aux démissionnaires sous condition.
Voilà, tout cela donc au service de l'émancipation sociale dont parlait Madame Pénicaud, de la possibilité de choisir son avenir professionnel. Il n'y aurait donc plus de problème d'emploi véritablement, mais simplement d'employabilité pour chacun de pouvoir accéder précisément sur le marché du travail. Comme sur d'autres sujets, en fait, le gouvernement, Anne-Laure, a l'air de proposer une révolution du regard plus qu'une transformation.
Oui, même si cette révolution ne date pas d'hier. En fait, depuis la fin des années 70, les gouvernements et les formateurs eux-mêmes lient la formation professionnelle ou professionnalisante à la baisse du chômage. Or, ce lien n'a jamais été formellement démontré. Ce texte de loi s'inscrit pourtant dans cette logique qui veut, vous l'avez dit, qu'une des causes principales de notre taux de chômage élevé serait l'employabilité insuffisante d'une partie de la population. Les statistiques, elles, ne disent pas la même chose. Regardons par exemple les chiffres de Pôle emploi. Ce sont près de 200 000 emplois par an environ qui ne trouvent pas preneur à cause d'une qualification insuffisante. C'est très peu en regard à la fois du nombre de recrutements proposés et du nombre de chômeurs. Si personne ne remet en cause la nécessité d'une formation professionnelle accrue pour tout le monde et en particulier les moins formés, certains organismes de formation préviennent tout de même. Attention à la tentation de vouloir former et solvabiliser d'une certaine manière les personnes pour les besoins immédiats des employeurs sans leur donner des compétences durables qui les feront rester plus longtemps dans l'emploi.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin, 12h46 sur France Culture. La ministre du Travail parlait de retour de la croissance, retour assez modeste toutefois au premier trimestre, la croissance qui a fortement ralenti au début de cette année en raison notamment d'une faible consommation des ménages. Selon une première estimation publiée ce matin par l'INSEE, la hausse du produit intérieur brut atteint 0,3% entre janvier et mars, loin du rythme atteint lors du dernier trimestre de 2017 qui était de plus 0,7%. Croissance au Royaume-Uni aussi qui est sévèrement freinée à 0,1% pendant ce même premier trimestre à cause d'une chute de l'activité dans la construction et aussi d'un ralentissement du secteur dans les services. C'est la fin du congrès de Force ouvrière à Lille avec l'élection de Pascal Pavageau comme prévu, élu nouveau secrétaire général. Il était le seul candidat en lice. Il remplace donc Jean-Claude Mailly, issu de la fonction publique, militant depuis près de 30 ans. Pascal Pavageau affiche son indépendance, notamment politique, et il aura donc la tâche difficile de rassembler des troupes qui ont été un peu déstabilisées par les prises de position de Monsieur Mailly sur, par exemple, les ordonnances travail, Mathilde Bénézé.
Tout à fait, Pascal Pavageau va devoir redresser la barre et regagner la confiance des syndiqués très mécontents du bilan de Jean-Claude Mailly. Hier, le 24e congrès de Force ouvrière a en effet pris des airs de règlement de compte. Les responsables syndicaux n'ont pas mâché leurs mots à l'égard du secrétaire général, l'accusant d'avoir vendu la classe ouvrière au président Macron et au MEDEF. Le rapport d'activité de Jean-Claude Mailly a d'ailleurs été voté d'extrême justesse avec seulement 50,54% des voix, un score très inhabituel qui résume toute la colère des adhérents. Alors en cause, ces positions jugées, comme vous le disiez, bien trop consignantes à l'égard du gouvernement, notamment vis-à-vis des ordonnances Macron sur la réforme du droit du travail, et ce, alors qu'FO avait défilé aux côtés de la CGT pour s'opposer à la loi El Khomri. Autre exemple aujourd'hui avec la réforme des retraites, un nouveau bras de fer lors duquel Jean-Claude Mailly s'est montré beaucoup moins incisif que la CGT. Hier, le pot de départ avait donc un goût amer chez FO et c'est les bras grands ouverts que les syndicats ont accueilli leur nouveau secrétaire Pascal Pavageau. L'homme devrait en effet durcir la ligne du syndicat et être dans une confrontation plus directe avec l'exécutif. Dernier défi, il faudra également donner un second souffle au syndicat qui peine à se renouveler et à se féminiser.
Merci Mathilde Bénézé. L'Union européenne qui décide d'élargir l'interdiction de trois néonicotinoïdes, des pesticides jugés dangereux pour les abeilles. Élargissement donc à toutes les cultures en plein champ au nom de la défense, de la biodiversité, aussi de l'environnement. Rosalie Lafarge.
Ils ont des noms un peu barbares, la clothianidine, l'imidacloprid et le thiamethoxam, trois néonicotinoïdes, trois substances très utilisées, trois produits jugés dangereux par l'Agence européenne de sécurité des aliments. Ils s'attaquent au système nerveux des insectes et déboussolent les pollinisateurs. Désorientés, les abeilles ne trouvent plus le chemin de la ruche. Il était temps que ça s'arrête. Pour François Veyrette, directeur de Génération Future, l'ONG dénonce les effets des néonicotinoïdes depuis plus de 20 ans.
Les néonicotinoïdes sont la cause disparition de très très nombreuses colonies d'abeilles, d'une chute vertigineuse de la présence des pollinisateurs dans notre environnement avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour les équilibres naturels. Donc aujourd'hui c'est une très belle victoire, il faut la savourer. Bon, maintenant il va falloir amplifier ce mouvement parce qu'il y a d'autres produits qui sont des néonicotinoïdes qui ne disent pas leur nom, mais on est quand même sur une très bonne chose, c'est très positif.
Un soulagement aussi évidemment pour les apiculteurs, ils réclamaient cette interdiction, surtout après avoir constaté au début du printemps une mortalité anormale des abeilles. L'Union nationale de l'apiculture française dénonçait pas plus tard qu'hier un désastre imputable, au moins en partie, à la contamination chimique et quasi omniprésente de l'environnement par les pesticides.
1h10, retour vers notre invité, donc Dorian Malovic, spécialiste de l'Asie et de la Corée en particulier. Vous êtes toujours là, monsieur Malovic ?
Oui, bien sûr.
Voilà. Comment vous expliquez qu'après une phase de tension très forte, dont vous avez parlé tout à l'heure, on arrive quand même à ce rapprochement assez spectaculaire, en tout cas, quand on regarde les images ?
Écoutez, il y a plusieurs interprétations en fonction de certains observateurs, de leur position historique vis-à-vis de la Corée du Nord, de la position vis-à-vis des Américains. Certains disent que c'est la politique de pression maximum de Trump à l'ONU qui a poussé Kim Jong-un à céder en quelque sorte à cette pression pour lancer aujourd'hui cette démarche diplomatique. D'autres disent finalement il a abouti son programme nucléaire quasiment à 90-95%. Il a consolidé son pouvoir intérieur en Corée du Nord. Il a consolidé son pouvoir, son assurance vie nucléaire vis-à-vis d'une éventuelle attaque ou invasion américaine sur son sol. Et aujourd'hui, dans sa stratégie, parce que ce qu'on a tendance souvent à oublier, c'est qu'il y a une stratégie interne à la Corée du Nord. Depuis 2012, il a lancé la double poussée, c'est-à-dire le nucléaire et l'économie. Aujourd'hui, là, il y a une semaine, il a dit « je gèle mes essais ». En réalité, il dit « je n'en ai plus besoin, maintenant je vais axer mes priorités sur l'économie ». Et il va poursuivre cela. Alors évidemment que les sanctions pourraient mettre à mal cette politique de réforme économique, ça c'est certain. Donc ça va également dans le sens où il va faire des concessions, renouer avec le voisin du Sud, utiliser le Sud pour toucher le leader nord-américain et pouvoir à terme avoir un pays qui ne sera plus autant dans la pauvreté, qui va pouvoir s'ouvrir encore plus. Il lui faut des investissements étrangers.
Alors le président Trump qui salue à l'instant la rencontre qualifiée d'historique entre Kim et Moon. Question de Marie-Pierre Véro.
Vous parlez d'investisseurs étrangers, de cette nécessité effectivement de développer l'économie. On se souvient que les sanctions ont été renouvelées et votées notamment par la Chine et qu'elles affectent effectivement cette économie nord-coréenne, ce qui pourrait aussi inciter la Corée du Nord à plus d'ouverture.
De souplesse, oui. Non, effectivement, on le voit. Mais vous voyez, il y a 3 semaines, Kim Jong-un est allé où en premier à l'étranger? Il est allé à Pékin. Et on voit sur le terrain, à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, l'assouplissement déjà de ces sanctions économiques. Les restaurants nord-coréens rouvrent à la frontière, les travailleurs nord-coréens se remettent à travailler en Chine, et on voit que les échanges sur tous les points de rencontre sur la frontière commencent à être à nouveau alimentés. Donc il veut envoyer des gages à son parrain chinois qui va être le signataire d'un potentiel traité de paix d'ici la fin de l'année. C'est important puisque c'est la Chine et la Corée du Nord qui ont signé. Et on voit bien qu'effectivement il va devoir mettre un peu d'eau dans son vin ou dans son soju, comme on veut, pour pouvoir avoir les bonnes grâces des États-Unis et de la communauté internationale.
Et comment le Japon peut réagir? Parce que bon, ils ont dû attendre des mesures concrètes. Ce matin, c'est un enthousiasme beaucoup plus modéré. On sait que le Japon est assez inquiet de ce rapprochement.
Alors effectivement, le Japon, depuis le début de ce processus, fait la grimace. Depuis le début, il a dit « nous ne faisons pas confiance à la Corée du Nord ». Ses essais de missiles, il n'a pas parlé d'essais de missiles à courte et moyenne portée. Je vous rappelle quand même qu'effectivement, les missiles de courte et moyenne portée passent au-dessus du Japon ou tombent dans la mer à côté du Japon. Donc effectivement, le Japon a de quoi s'inquiéter. Maintenant, il se sent quand même marginalisé par rapport au lien direct qu'il y a entre Pyongyang et Séoul, et Pyongyang, et les États-Unis d'ici quelques semaines. Maintenant, là, on a une déclaration japonaise qui se félicite de l'issue de ce sommet. Forcément, ils vont pas aller à l'encontre de...
Et qu'est-ce qu'on aura comme déclaration après ce sommet avec Trump, à votre avis? Qu'est-ce qui, ça ira plus dans quelle direction?
Alors là, vous me posez une question quand même très très difficile. Déjà, on va savoir où ça va se passer. Ça, symboliquement, ça va être important. On parle de Singapour ou de la Mongolie. On va savoir quand ça va se passer. Mais visiblement, la réaction de la Maison-Blanche, elle est positive. Puisqu'il a dit, voilà, l'espoir renaît. Le Nord a fait et le Sud ont fait le travail, je dirais, pour que le sommet se tienne, nous ne sommes qu'au début d'un processus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas encore techniquement de feuille de route où on va faire intervenir l'ONU, l'AIEA, les inspecteurs, des garants diplomatiques. On n'est pas encore là, mais quelque chose probablement est en train de décoller.
De décoller, vers quoi la réunification est-elle inscrite, selon vous, dans la logique de l'histoire maintenant ?
Alors, maintenant, non. Parce que on peut très bien être en paix et s'habituer à vivre en paix entre deux nations distinctes, différentes, avec deux systèmes différents. On voit bien qu'il va falloir que les échanges s'intensifient, que les gens se connaissent mieux, que le différentiel économique diminue afin de pouvoir avoir des relations les plus équilibrées possibles. La réunification, même si c'est le rêve de tout le peuple coréen dans son ensemble, ils sont très conscients qu'au Sud, le décalage économique est trop fort et veulent pas payer la note qui serait de 3000 milliards de dollars, par exemple, sur des années. Et le Nord aussi souhaite la réunification, mais ils savent qu'ils peuvent imaginer une fédération, mais ça, c'est dans les années qui viennent. Ne précipitons pas trop, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Voir sur le temps et le moment. Dorian Malovic, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. Liaison assurée par Frédéric Kérou. La météo, il y a davantage de soleil à attendre cet après-midi sur la moitié est du pays que sur la moitié ouest. Des températures de 14 à 26 degrés. Édition réalisée avec Brice Garcia, 17h, le magazine de la rédaction Momentum. Le bras gauche de Jérémy Corbyn, le renouveau travailliste au Royaume-Uni. Ce sont des reportages de Marion Lourd, réalisés par François-Charles Domergue et présentés par Tara Schlegel, 18h. Prochain journal, Antoine Maret.